On est en compagnie de Paul Chiesa qui a co-réalisé un documentaire qui sera diffusé ce soir au cinéma Le Cratère. C'est un film qui s'appelle l'ANC, une assemblée citoyenne catalane. Et donc voilà, c'est un documentaire réalisé par Paul Chiesa et Marie-Pascale Castelli. Et voilà, du coup, on va parler un petit peu de ces mouvements, ces mobilisations, enfin de l'indépendantisme catalan aujourd'hui. Donc, on va peut-être pas revenir sur l'ensemble de l'histoire de la Catalogne, mais on sait que ce territoire a été intégré à la monarchie espagnole au début du XVIIIe siècle. Et c'est vraiment au XIXe siècle que les mouvements indépendantistes se sont structurés et ont commencé à défendre l'idée de l'autonomie de la Catalogne. Alors, on sait aussi que c'est sous la dictature fasciste du général Franco jusqu'en 1975 en Espagne que la répression a été la plus violente en Catalogne, puisque il était interdit, notamment, en plus de la répression policière, militaire, il était interdit de faire exister toute forme d'identité catalane, par exemple de parler la langue catalane ou de l'enseigner dans les écoles. Alors, la mort de Franco, elle a changé certaines choses pour les Catalans, mais pour autant, il a fallu attendre les années 2010 pour que les mouvements indépendantistes connaissent un renouveau. Et justement, c'est ce dont il est question dans ce film, puisque ce documentaire porte sur l'Assemblée nationale catalane qui s'est créée en 2012, un petit peu dans ce moment-là, en fait, de l'histoire de la Catalogne, qui a été suivie après par différents référendums. Et c'est une histoire qui n'est pas terminée, dans laquelle on est encore. Donc, du coup, on va en parler. Bonjour, Paul Chiesa.
Bonjour.
Alors peut-être, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous raconter un petit peu ce qui vous a conduit à réaliser ce film?
Oh, ce qui m'a c'est simple, c'était un projet de quelqu'un que je connaissais, Marie-Pascale Castelli, qui avait le projet de faire ce film, qui habite en Corse. Et ça a intéressé France 3 Corse. Donc, c'est important au niveau de la production d'un documentaire de pouvoir avoir une chaîne de télévision qui coproduit. Ça permet de déclencher les mécanismes d'aide. Et voilà, donc j'ai été approché pour le réaliser. Et j'ai été intéressé. Il faut dire qu'au début, enfin je veux dire avant, j'étais moyennement intéressé par l'indépendantisme catalan, j'étais plus intéressé par d'autres mouvements, par mon Pays basque. Et c'est vrai que j'avais vu un peu de loin la situation en Catalogne, et même si quelquefois je l'avais un peu approché. Pendant 2011, je me trouvais à Barcelone quand il y avait la journée nationale catalane, et j'ai vu les prémices des mobilisations.
Ouais, parce qu'il y a eu une grosse manif, notamment en
En 2012,
2010.
en 2012.
En
Mais
2010 aussi.
j'y reviendrai. Et donc, moi, je m'y suis intéressé et passionné. Et c'est vrai que l'intérêt d'un documentaire, c'est de prendre le temps d'approcher un sujet, de le pénétrer, de réfléchir et d'en sortir quelque chose. J'ai mis un an à faire le film et maintenant j'ai une position plus précise. Ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Vous avez fait un très bon résumé de toute la problématique historique catalane. Et notamment, je reviens à la date du 11 septembre. Alors, le 11 septembre, il s'est passé plein de choses, hein, je veux dire, notamment en 2001. Mais le 11 septembre, c'est la journée nationale catalane et qui fête non pas une victoire, mais une défaite. Et le 11 septembre, c'est la fin de la liberté nationale catalane. C'est le 11 septembre 1714. Vous avez signalé que la fin de l'indépendance catalane, c'est au début du 18e. C'est les Castillans qui assiègent Barcelone, qui rentrent dans Barcelone, qui interdisent le catalan, qui suppriment toutes les structures nationales catalanes, etc. Et donc la Catalogne, qui était indépendante depuis pratiquement le 8e siècle, est devenue donc dépendante, vassale de la Castille dans l'État espagnol. Et ça jusqu'à 1931, où à l'occasion de l'accession de la gauche au pouvoir, de la République, l'autonomie de la Catalogne a été en partie restaurée, et c'est la suite de cette longue histoire qui se prolonge actuellement. Alors, pour en revenir sur l'ANC, vous avez signalé que l'ANC avait été à l'origine de très grandes mobilisations, et notamment en 2012, parce que quand j'étais à la manif de 2011, c'est que pour la Journée nationale catalane, il y avait quelques milliers de personnes. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 20 000, 30 000 personnes, c'est beaucoup. Mais enfin bon. Mais en 2012, il y a eu plus d'un million de personnes qui se sont mobilisées. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça a été à la création de cette association, l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, qui a eu une gestation très, 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 très particulière.
Peut-être pour que les gens qui ne connaissent pas comprennent, ma première question, c'était plutôt... donc l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale catalane, c'est ce qui
une
va...
association.
C'est une association, c'est ce qui va... C'est plusieurs groupes, plusieurs assemblées. Bah, c'est une association d'assemblée, en fait, qui va...
Non, c'est pas une assemblée avec des députés élus.
Une assemblée, c'est pas que au Parlement.
Oui. Non, mais là, il y a la généralité, les députés. Non, et que l'Assemblée nationale catalane, c'est une association qui reprend le terme assemblée, qui était la structure qui a unifié tous les courants antifranquistes dans les années 50-60.
70. C'est la raison, du coup, pour laquelle ma question, c'est comprendre qu'est-ce qui se joue au début des années 2010 dans l'indépendantisme catalan, pour que, justement, ces mouvements-là connaissent un renouveau et, justement, aboutissent sur cette association qui, jusqu'aujourd'hui, va porter ce message-là.
Alors, c'est vrai que c'est au tournant de ces années-là, 2009-2010, que tout a basculé. Alors 2010, c'est dans les années 2000, quelques années avant, il y avait un gouvernement socialiste de gauche avec Zapatero qui avait décidé d'augmenter l'autonomie des régions en Espagne et notamment de la Catalogne. Et il y a eu tout un travail de concertation très très long, je veux dire, pour aboutir à un accord entre le gouvernement central de Madrid et la Generalidad catalane à Barcelone. Il y a eu un vote favorable au Parlement espagnol, au Parlement catalan, il y a eu un référendum en Catalogne, etc., pour arriver à un accord qui a arrivé, disons, à satisfaire à peu près tout le monde. La droite, le Parti populaire, a protesté et a fait appel auprès du tribunal constitutionnel espagnol, qui a retoqué tout en 2010. Et en 2010, ça a été en Catalogne l'embrasement. Ça a été la première grande manifestation en juin 2010 pour protester contre cette décision du tribunal constitutionnel. Et ça a été le début de cette histoire-là. En parallèle...
Et du coup, ouais, c'est ça, c'est qu'en
non,
fait...
Non, en parallèle, il y a eu un autre truc très important avant, en 2009. C'est que ont commencé les premiers référendums locaux sur l'indépendance. Parce qu'entre deux, on parle toujours du référendum de 2017 en Catalogne, mais pendant 10 ans, ça a été préparé par des centaines et des centaines de référendums locaux dans pratiquement toutes les communes. Et le premier référendum local, c'est à Arenys de Mar, ce qui est une petite ville sur la Costa Brava au nord de Barcelone, donc en 2009, et qui organisait le premier référendum. Et ça a tellement intéressé tout le monde qu'il y a eu des milliers de personnes qui sont arrivées de partout en Catalogne, pas pour voter, parce qu'ils ne pouvaient pas voter, ils n'habitaient pas là, mais pour regarder, voilà, je veux dire. Et notamment plusieurs personnes, bon, militants un peu connus, indépendantistes, dont Pérez Puget, ils se sont vus repérer, ils ont discuté, il faut faire quelque chose. Et ils ont fait quelque chose de très original, c'est qu'ils ont réuni un panel d'une cinquantaine de personnes qui représentaient tous les courants de l'indépendantisme catalan, de gauche, de droite, d'extrême gauche, etc. Bon, la plupart, bien sûr, des gens étaient fâchés, ne se parlaient plus, etc. Et ils les ont fait dialoguer anonymement sur Internet. C'est-à-dire, il y avait un site, alors très protégé, ça on pourra en revenir sur l'espionnage numérique de l'État espagnol, un site qui était hébergé en Inde, même dans un truc du gouvernement indien, etc. Tous les gens discutaient ensemble avec des pseudonymes, pour pas justement qu'ils soient identifiés même entre eux. Et ils ont discuté pendant à peu près un an ensemble pour se mettre d'accord. Et ils se sont vus qu'un an après, donc en présentiel, pour aboutir à la création de l'ANC.
Alors justement, pour comprendre un petit peu, même politiquement, parce qu'il y a plusieurs courants dans l'indépendantisme catalan et l'indépendantisme, et notamment portée par des figures de gauche, mais c'est très large. Du coup, pour comprendre là ce dont vous parlez politiquement, là vous parlez de ce site-là et des personnes qui ont des mouvements qui ont impulsé ces nouvelles dynamiques d'assemblées, d'associations, etc. C'est quoi le fond politique de cet indépendantisme-là? Parce que entre 78 et 91, ça je l'ai appris en regardant vite fait la page Wikipédia, je ne suis pas non plus spécialiste, mais j'ai appris qu'il y avait quand même eu des mouvements indépendantistes d'extrême gauche en Catalogne qui utilisaient la violence politique, les attentats, pour revendiquer cette indépendance-là. Mais clairement, c'est pas la tendance dominante aujourd'hui. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait définir politiquement les tendances qui s'expriment à partir des années 2010.
Il y a trois principales tendances. Justement, toutes ces tendances et l'originalité de l'ANC se retrouvent dans l'ANC. C'est-à-dire, c'est vraiment le creuset de toutes les tendances très, très diverses de l'indépendantisme catalan. Il y a deux grandes tendances, j'allais dire, gouvernementales. Bon, comme ici, j'allais dire, le PS et la droite. Hein. Il y a le centre-droit et le centre-gauche. Centre-droit, c'est Puigdemont, je veux dire, qui a été longtemps président. Je veux dire, ils se sont partagés, enfin, les présidences pratiquement depuis 1978, avec Pujol avant. C'est des démocrates chrétiens, centre-droit, voilà. L'autre grande tendance, qui est majoritaire maintenant, c'est l'Esquerra républicaine catalane, la gauche républicaine catalane, avec Oriol Junqueras. Et c'est ces deux grandes tendances qui se partagent. Bon, la majorité du Parlement catalan et des fonctions officielles. Mais il y a une troisième tendance qui est la coupe, l'appel de l'unité populaire, ça c'est pas l'union là-bas, c'est l'unité populaire, qui est une tendance d'extrême-gauche qui rassemble, elle, aussi un certain nombre de courants d'extrême-gauche, indépendantistes, féministes, etc., qui a une particularité d'être très décentralisée, très basique au niveau des prises de décision démocratiques et décentralisée, et qui fait en général la balance, qui est très importante, parce que c'est en général le complément, pour déterminer les majorités au Parlement catalan. Et juste une anecdote, Puigdemont est devenu président, alors, je ne sais plus quand, en 2015, parce que normalement, ça devait être le président centre-droit, Mas, bon, qui était le président sortant, qui était libéral, qui avait privatisé un certain nombre de choses, etc. Plein de gens n'en voulaient pas, etc. Et notamment la coupe n'en voulait pas, c'était hors de question que ça soit Mas. Mais comme c'était cette tendance qui était majoritaire, la présidence devait être issue de cette tendance. Et la coupe a fait durer le système. Donc la coupe, cette organisation d'extrême gauche, a fait durer le feuilleton pendant des semaines, parce que toutes les décisions qu'ils prennent, c'est à l'Assemblée Générale. Dans l'Assemblée Générale, décentralisée dans toutes les villes, donc des réunions en Catalogne.
Mais pour revenir à... On reviendra un petit peu sur cette histoire-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, pour cet indépendantisme-là, ce qui est demandé du coup par ces différentes, c'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a des, comme vous le dites, des tendances politiques différentes, mais globalement, en fait, la Catalogne aujourd'hui, au sein de l'État espagnol, elle a une certaine autonomie. C'est donc puisqu'elle est ce qu'on appelle une généralita, ça veut dire qu'elle a un statut de région avec des institutions qui ne lui garantissent pas une souveraineté totale, mais qui sont quand même les outils qui arrangent bien Madrid dans cette semi-autonomie. Mais du coup, ce qui est demandé là, quand on parle d'indépendance, c'est souveraineté, en fait. Ce serait des outils, des institutions qui permettraient de prendre des décisions par et pour les Catalans.
Oui, enfin, je n'avais pas terminé tout à l'heure, on y reviendra. Parce que c'est difficile de raconter une histoire quand on ne dit pas la fin. Par rapport à votre question, c'est les deux. Je veux dire, c'est des outils de souveraineté. Alors, bien sûr, des outils de souveraineté, ce n'est pas forcément une armée des frontières. Je n'ai jamais entendu personne en Catalogne parler d'instaurer des frontières et de créer une armée, je veux dire. Mais c'est donc une politique internationale certainement autonome. Par exemple, l'accueil des réfugiés. Je veux dire, à Barcelone, s'est tenue pendant 2015 une manifestation de 50 à 100 000 personnes pour l'accueil des réfugiés. Je voudrais bien qu'on me cite une autre manifestation équivalente dans une autre ville européenne aussi nombreuse. Je veux dire, ça a été à Barcelone, et ça, c'est du domaine régalien de Madrid et gouvernement central, je veux dire, la politique étrangère. Et après, c'est tout simplement aussi le fonctionnement même, je veux dire, de la vie quotidienne des gens. Par exemple, il y a eu un certain nombre de mesures, de lois qui ont été adoptées par le Parlement catalan et retoquées par le gouvernement central de Madrid. Par exemple, une aide pour les familles en difficulté sur le gaz et l'électricité, je veux dire, l'arrêt des expulsions, une taxe sur les serveurs Internet, etc. Je veux dire, toutes ces mesures prises par le Parlement catalan ont été systématiquement retoquées par le gouvernement central. Donc c'est vraiment les deux, je veux dire, le fonctionnement d'une collectivité en Catalogne, je veux dire, avec tout le monde, et les questions régaliennes de politique internationale.
Mais c'est intéressant parce que moi, je suis partie en Catalogne en 2018, je crois, et c'était un an après le premier grand référendum, et il y avait un vote à ce moment-là pour élire justement des responsables, le parti qui allait... je crois que c'était les élections que Madrid désignait comme élections régionales et eux comme élections nationales. Et j'étais allée dans des quartiers discuter avec des militantes, militantes, plus ou moins anarchistes qui votaient. Et en fait, je pense que c'est quand même important de dire que cette question indépendantiste, elle est complexe parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une grande partie de ce mouvement-là qui est à droite et qui va vraiment être loin d'être révolutionnaire et qui n'est pas forcément du côté des travailleurs ou qui n'a pas d'engagement anticapitaliste. Mais pour autant, j'ai l'impression que c'est aussi au-delà des clivages partisans, cette question de l'autonomie, puisque ça apparaît comme une priorité de s'opposer, en fait, avant tout à l'État espagnol et à Madrid. Voyez, donc c'est super complexe, en fait, c'est de se demander mais pourquoi est-ce qu'en tant qu'anarchiste, on va participer à ces élections-là? Pourquoi est-ce que aussi... qu'est-ce qui se joue aussi dans cette assemblée-là dont on va parler, l'ANC, dans cette association, pardon, l'ANC dans laquelle il y a autant de tendances aussi différentes et aussi fracturées qui se rassemblent? C'est aussi parce que l'autonomie, elle apparaît comme une priorité, un peu, j'ai l'impression, des fois, au-delà des fractures partisanes.
Tout à fait. Et justement, je termine l'histoire de tout à l'heure sur la coupe pour les élections à la Generalidad. Donc la coupe a organisé des réunions de tous ces militants, donc des milliers de personnes. Parce que la décision, chaque personne avait la décision entre les mains. Donc ils ont voté pour savoir quel allait être le futur président de la Generalidad. Et ce qui était très rigolo, c'est que les premiers résultats de vote, il y avait égalité parfaite. Du style 3200 contre 3200, etc. Et ça a duré des semaines. C'est-à-dire toute la vie politique catalane était complètement, orientée vers la décision des assemblées décentralisées de la coupe. Et en définitive, c'est Carles Puigdemont qui a gagné, enfin qui a eu l'assentiment des gens de la coupe.
Du centre donc, droit.
Au centre droit, mais qui n'était pas un ultralibéral comme Mas, etc. Pour dire que des temps d'extrême-gauche comme la coupe peuvent avoir un effet. Parce que si ça n'avait pas été Carles Puigdemont, la suite de l'histoire aurait été très différente. Le référendum de 2017, etc. Je veux dire, ça a conditionné beaucoup de choses. Je veux dire. Donc même un petit groupe peut peser énormément sur la vie politique catalane. Et l'ANC, pour en revenir à l'ANC qui regroupe tout le monde, a comme objectif l'indépendance. C'est-à-dire son objectif, après l'indépendance, s'il y a un jour l'indépendance, l'ANC se dissolvera. Je veux dire, voilà, ça passera à autre chose. Alors après, c'est ce que vous dites, qu'il y a étance de droite, il y a des patrons, il y a des ouvriers, je veux dire, différentes classes sociales, etc. Mais j'allais dire, avec des guillemets, c'est comme dans toute lutte de libération nationale. Je veux dire, quand l'Algérie, sans comparer la guerre d'Algérie et ce qui se passe en Catalogne maintenant, quand l'Algérie a été indépendante, je veux dire, c'est toutes les classes sociales algériennes qui sont arrivées au pouvoir. Et bien sûr, en général, dans cette situation-là, c'est toujours la bourgeoisie qui a souvent un peu le dessus sur la classe ouvrière. Je veux dire, bon, après, mais ça, c'est une autre histoire. C'est la lutte des classes qui continuera. Et c'est quand même se rappeler que la Catalogne, dans les années 30, et notamment en 36, a été le cœur révolutionnaire de l'Europe. Je veux dire, c'est comme le prolétariat catalan en 1936, qui était majoritairement anarchiste, mais aussi socialiste et communiste, etc., c'était vraiment le cœur révolutionnaire de l'Europe. Je veux dire, toutes les usines en 1936-37 ont été en Catalogne nationalisées, étaient gérées par les ouvriers. Je veux dire, c'était quelque chose... Bon, après, tout ça a été bien sûr détruit par la victoire franquiste, mais c'est aussi cette histoire qui continue. Donc, d'un côté, bon, le côté revendicatif, et en face, c'est les mêmes. Parce que ce que reprochent les Catalans, c'est que l'État espagnol, je veux dire, il y a toujours des séquelles très très importantes du franquisme, dans la magistrature, dans la police, dans tous les appareils d'État, etc. Et ça, on le voit, je veux dire. Et je pense que dans la situation actuelle, il y a... je veux dire que ces appareils d'État et les partis espagnols, principalement la droite, le Parti populaire, etc., a joué quelque chose de très particulier. Et notamment, voulait créer un ennemi intérieur.
Je vous propose de faire une pause musicale et de se retrouver après. Et vous venez d'écouter le guitariste Miquel Llobet, qui est un guitariste catalan des années 20-30, si je ne me trompe pas. Et on poursuit notre magazine en compagnie de Paul Chiesa, qui, avec Marie-Pascale Castelli, a réalisé le film L'ANC, Assemblée nationale catalane, une assemblée citoyenne catalane qui sera projetée ce soir à partir de 20h au cinéma Le Cratère, rue Saint-Michel, projection qui sera suivie d'une discussion. Alors là, on vient de contextualiser un petit peu ce qui advient au début des années 2010, quand cette Assemblée nationale catalane va naître. J'ai pas vu votre film, je sais pas comment il est organisé, qui vous avez suivi. J'imagine que vous avez pris des images dans ces assemblées, que vous avez peut-être que ce film témoigne aussi des discussions, mais aussi des modes d'organisation de cette assemblée. Du coup, c'est l'objet de ma prochaine question. Je voudrais savoir quel est le fonctionnement de cette assemblée, et notamment, je sais qu'en Catalogne, plus qu'en France ou plus qu'ailleurs, il y a une grande importance du local, du quartier, et de la solidarité entre personnes qui habitent un même lieu, et que ça a été très important en fait dans cette histoire de l'indépendantisme espagnol, l'indépendantisme catalan, pardon, récemment. Du coup, voilà, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur les modes d'organisation de cette assemblée de l'ANC, qui existe d'ailleurs aussi pour les Catalans en exil, mais on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, pour parler de ce qui se passe en Catalogne, quelle forme ça prend, cette mobilisation par les ANC?
Oui, tout à l'heure, quand je parlais de la coupe, donc je disais que c'était une organisation très très décentralisée, et c'est vrai que peut-être, comme vous l'avez dit, c'est une particularité de la situation actuelle en Catalogne, d'avoir une décentralisation vraiment des outils politiques et citoyens. Et l'ANC, c'est pareil, est organisée au niveau territorial, dans les villes, les villages, les quartiers, etc. Et donc vraiment est extrêmement décentralisée, au niveau de ses prises de décision. Et c'est ce qui fait sa force. C'est qu'il y a, alors maintenant je ne sais pas, mais quand j'ai fait le film, il y avait à peu près 40 000 personnes adhérents à l'ANC. Alors, c'est toujours intéressant de...
Du coup, il y a des adhérents. En fait, je ne comprends pas très bien. Est-ce que...
Des adhérents militants,
Mais c'est comme un parti, en fait, ou bien c'est des assemblées,
Non, c'est une association. D'accord. Avec des gens qui adhèrent à l'association. Et après, tout le monde ne milite pas à temps plein dans l'association. Bien qu'en... Vraiment, en 2016, 2017, 2018... Ça a été extrêmement actif, parce qu'il y avait quasiment des manifestations tous les jours. Et donc 40 000, je veux juste donner une... parce qu'on parle de chiffres, c'est quand le gouvernement parle de milliards d'euros, on a du fois du mal à s'en rendre compte. La Catalogne, c'est à peu près la population de la région Occitanie, et c'est deux fois plus petit quand même que la région Occitanie, c'est un peu plus peuplé. Donc, est 10 fois moins peuplé que la France, Donc, 40 000, c'est une association qui fait 400 000 personnes au niveau national en France. Le Parti Socialiste, ils doivent être 10 000. 400 000, vous voyez, ce que ça peut représenter, c'est quand même énorme. Et donc, c'est une association qui arrive à organiser des événements. Je parlais tout à l'heure des manifestations pour la Diada, donc la journée nationale catalane le 11 septembre. En 2013 et 2014, il y a eu plus d'1,5 million de personnes. C'est-à-dire plus d'1,5 million de personnes, c'est 1 million de personnes qui manifestent à Toulouse. C'est inimaginable, ou 10 millions à Paris. C'est inimaginable.
C'est massif.
Donc ça demande une organisation très, très, très importante, très méticuleuse. Moi, je ne sais pas, une fois pour... Alors, je crois que c'est pour la Diada. Pour une Diada, j'étais parti...
Diada.
C'est le jour national basque, ça va être jour en catalan. Et j'étais parti de Gérone à Barcelone en bus, parce qu'il y a des bus qui viennent, des centaines et des centaines de bus qui viennent partout. Et de Gérone, je me souviens quand je suis arrivé sur le parking, où tout le monde s'était donné rendez-vous pour partir en bus, mais c'était vraiment une marée de bus, qui partait de Gérone. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Au niveau économique aussi, puisque ça demande des moyens financiers, donc il y a énormément d'activités de collecte, etc. Et ce qui est surtout important, c'est que l'ANC a réussi à imposer un certain nombre d'objectifs aux partis politiques de pouvoir en Catalogne. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ça soit le centre-gauche, j'ai parlé des deux grands partis, centre-gauche, centre-droite, hein. Le référendum de 2017, ils n'en voulaient pas. Grosso modo, ils n'en voulaient pas.
Alors, peut-être qu'on n'en a pas parlé, ce serait bien de recontextualiser. Oui. En 2017, il y a eu un premier référendum organisé par Madrid.
Non, il n'y a pas eu. Je veux dire, il y a eu tous les référendums dont j'avais parlé tout à l'heure dans les communes, qui a préparé un grand référendum. Il y en a eu un autre avant, mais je simplifie. Organisé par la Generalidad,
okay.
C'est-à-dire la région, organisé officiellement un référendum le 1er octobre 2017, en disant vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Catalogne. Voilà, en gros, je simplifie, etc.
En dehors de Madrid.
Et le référendum a organisé en affrontement maximum avec Madrid, maximum.
C'est vrai qu'il y avait les flics, il y a eu des violences policières à ce moment-là.
On va détailler, mais c'était colossal. C'était inimaginable. Parce qu'il s'agissait que d'un vote, c'est-à-dire un vote avec comme habituel, c'est-à-dire des bureaux de vote dans les écoles, des listes de votants, des bulletins, des trucs comme ça.
Une campagne avant, etc.
Et Madrid a envoyé quasiment un tiers des forces de police de l'ensemble de l'État espagnol sur la Catalogne. Il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas les héberger. Ils ont été obligés de louer des bateaux dans le port de Barcelone pour foutre les flics dans les cabines, etc. Des flics partout. Ils ont essayé de saisir les bulletins de vote, de saisir les urnes, de saisir les affiches. Ils ont arrêté tous les gens qui s'occupaient de tout le travail numérique, parce qu'en Espagne, le truc de vote, enfin, les listes de votants, c'est sur Internet. Enfin bon, c'est un système un peu différent d'en France. Ils ont essayé de tout bloquer. Je veux dire, ça a été raconté par la suite, que pour l'organiser, plein de militants ont retrouvé les réflexes qu'ils avaient sous le franquisme. C'est-à-dire toutes les urnes ont été achetées à l'étranger, ont été centralisées en France, enfin en Catalogne Nord, etc. Ont été amenées clandestinement par des fourgonnettes un peu partout en Espagne, hébergées chez l'habitant pour être sorties le jour même, les urnes. Les bulletins de vote, c'est pareil. Toutes les imprimeries de Catalogne ont été perquisitionnées, énormément de trucs de saisie.
Rien que l'image déjà des flics dans les bateaux, puisque le coup d'état de Franco à Barcelone, il est venu par la mer. Les militaires sont arrivés par la mer.
En Andalousie du Maroc, je veux dire. Mais le jour du vote, ça a été extraordinaire parce que malgré cette pression judiciaire et policière maximum, ils ont quand même réussi à organiser les élections. C'est-à-dire, tous les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures du matin. Il y avait les urnes, il y avait les bulletins de vote, il y avait les assesseurs, il y avait tout ça. Je veux dire, tout est organisé. Et là, les flics ont pris d'assaut. Et ils n'ont pas pu prendre d'assaut, je ne sais plus combien de bureaux de vote, 1000 ou 1500. Ils ont pris d'assaut 300 ou 400 bureaux de vote en essayant de cibler les bureaux de vote où les dirigeants allaient voter. Je veux dire, et après, quand je dis pris d'assaut, c'est violemment, c'est-à-dire les gens étaient en sang. La mamie du quartier qui allait voter, etc., se retrouvait en sang parce qu'elle avait mis un bulletin de vote, comme ça. Tout a été saisi, il y a à peu près 800 000 bulletins de vote qui n'ont pas pu être comptabilisés parce que les urnes ont été saisies par les forces de police. Et malgré ça, le référendum a réussi à se tenir. J'interviewe dans le film un des observateurs internationaux qui a validé le vote, c'est-à-dire le vote s'est passé, avec des références normales, avec des standards communs, etc. Alors bien sûr, il y a eu 90% pour l'indépendance et tout ça. Mais il y a eu un certain nombre de gens qui ont voté contre, parce que la campagne était ouverte à tout le monde et le vote aussi. Et je pense vraiment, pour avoir assisté dans un bureau de vote à un dépouillement, que le résultat a été scrupuleux. C'est-à-dire que même les indépendantistes savaient qu'ils allaient être attendus au tournant. Donc il n'y a eu absolument aucune erreur sur l'organisation du référendum lui-même.
Et du coup, vous n'avez pas répondu sur votre film. Est-ce que, par exemple, Vous avez suivi des personnages en particulier dans ce film? Est-ce qu'il y a des figures, pas forcément publiques, hein, mais qui sont les personnes qui se sont investies? On comprend que c'est massif et il y a à peu près tout le monde, mais quelles sont les motivations des personnes qui se sont engagées? Là, on va parler de 2017, par exemple, fortement dans cette lutte-là. Et quels sont les caractères, les personnages qui ont attiré, vous, votre attention et qu'on va retrouver dans le film, par exemple?
Non, j'ai écarté toutes les figures les plus connues, parce qu'en général, quand il y a quelques films, il n'y en a pas eu beaucoup de films sur la Catalogne, je veux dire, très peu même. En général, Puigdemont est omniprésent, etc. Bon, Puigdemont, on le voit qu'une fois de dos dans mon film. J'ai interviewé les gens qui ont été, même si c'est des dirigeants, mais les petites mains de tout ça. Notamment le fil conducteur, c'est une femme, Elisenda Paluzzi, qui est la présidente de l'ANC, à savoir quand même que c'est la troisième présidente de l'ANC, que les deux, quand je l'ai interviewé, les deux précédents présidents étaient en prison, je veux dire.
Il y a une forte
pression. Donc c'était, c'est pas président, c'est pas
c'est
comme...
c'est qui elle du coup, cette présidente?
C'est une économiste qui est prof d'économie à l'université de Barcelone, voilà, et qui avait accepté la présidence et qui explique en disant quand on a des objectifs comme cela, enfin je veux dire aussi importants, ben je veux dire on se sacrifie, enfin, je veux dire mais vraiment c'était touchant parce que le risque, bon, même si elle n'a pas été en prison depuis, je veux dire le risque était important quand même. Et c'est vrai que c'est un peu le fil conducteur du film. Il y a une deuxième personne, je pense, qui est très important, c'est un des fondateurs, sinon le principal fondateur de l'ANC, Pere Puget, qui est un vieil architecte. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est connu à Barcelone, mais qui n'a pas du tout, je pense qu'aucune télévision internationale l'a interviewé, je veux dire. Et c'est vraiment lui qui a été l'architecte, il est architecte de profession, mais en même temps, ça a été l'architecte de la création de l'ANC, je veux dire. Et après, d'autres militants de base, une des responsables de l'ANC France, et après des grands témoins, puisqu'il y a un des observateurs internationaux, c'est Gérard Onesta, qui a été vice-président de la région ici Occitanie, enfin, qui n'est plus conseiller régional, qui est un occitaniste et qui était observateur international, et un prof de l'université là, de l'Arsenal de Toulouse Capitole, un prof d'espagnol, enfin, qui revient sur le contexte historique de la question catalane.
Et justement, pour revenir à la politique, en quoi ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils racontent de la nature de cet indépendantisme-là aujourd'hui ?
Alors, bon, ah oui, j'ai oublié quelqu'un d'autre. Parce que je veux dire, je tenais pas à faire... un film objectif, il n'est pas objectif, le film, enfin, je veux dire, ma subjectivité, je veux dire. Mais je tenais aussi, quand même, à donner la parole à des anti-indépendantistes. Pas du tout pour les mettre sur le même plan. Hein. Je ne vais pas interviewer, si je faisais un film sur la Seconde Guerre mondiale, un juif et un nazi, enfin, je veux dire, ce n'était pas mon propos. Mais j'ai été voir, quand même, l'association anti-indépendantiste importante. Alors, c'est la droite, en gros, la droite et les socialistes. Et j'ai interviewé un des dirigeants de cette association, un économiste aussi, et c'est caricatural. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu besoin de. J'ai monté de façon tout à fait honnête son interview, et c'était caricatural. C'est le libéralisme à tout craint, je veux dire, et cette indépendance nous empêche à développer le libéralisme économique tel qu'on l'entend. Voilà, je veux dire, en gros, ça a été son propos, et il a eu l'avantage d'être hyper clair. Je veux dire, vraiment, c'est. Voilà.
Je rebondis du coup sur ce que vous dites, parce que il est souvent mis en avant que la Catalogne, elle a une économie qui quand même est pleinement ancrée dans le libéralisme européen, que cette région-là, enfin cette région, en tant que région en tout cas, dans le projet de certains indépendantistes, notamment des socialistes ou libéraux ou du centre, voilà, il y a vraiment l'idée de renforcer les liens avec les autres pays européens dans un projet libéral. Comment est-ce que vous avez fait rentrer cette problématique-là dans le film et dans la place qu'elle prend quand même dans ce mouvement-là indépendantiste? Et d'ailleurs, Ouais, bon, oui.
Non, j'ai pas pu développer tous les problèmes. Enfin, je veux dire, le film, il dure une heure, on va dire. J'ai pas développé la question linguistique, j'ai pas développé tas de choses, où j'avais des choses passionnantes dessus. Et sur cette question-là, elle est un peu abordée. C'est vrai que coexistent un peu de hypothèses pour la pré-indépendance, d'une hypothèse libérale, comme vous dites, pro-européenne, etc., etc., je veux dire, et qui certainement ne désobéiront jamais aux traités européens, et une hypothèse révolutionnaire. Enfin, ces deux, après, je veux dire, ça sera dans le rapport de force post-indépendance que se jouera la société catalane future, je veux dire, comme dans, je pense, dans tout ce que je disais tout à l'heure, dans toutes les luttes de libération nationale, je veux dire, c'est des luttes un peu interclassistes et que la société qui va se développer après l'indépendance sera le fruit du rapport de force qui sera construit durant la lutte, quoi, je veux dire.
Après, c'est toute une discussion, parce que j'ai l'impression que, pour moi, la question coloniale et la question capitaliste, elles ne sont pas du tout indépendantes l'une de l'autre. Et justement, elles se répondent dans une société. C'est pas vrai que dans une société colonisée, c'est pas vrai que les bourgeoisies partagent les mêmes intérêts que les travailleurs. C'est pas vrai. Et ça, justement, mais en fait, c'est toute la complexité de ce que ça veut dire une libération nationale. C'est qu'en fait, en tout cas, nous, par exemple, pour la France qui n'a pas été colonisée, on sait bien que la nation, elle est là aussi pour confondre les intérêts capitalistes et faire croire à un intérêt commun de la nation. C'est quand même ce que réfute la gauche et tous les mouvements marxistes, matérialistes, anticapitalistes, quoi. Et en fait, elle se pose d'une autre manière, en fait, pour dans les luttes décoloniales. Mais pour autant, on ne peut pas déconnecter lutte décoloniale et lutte anticapitaliste.
Je veux dire, là, c'est vraiment tout un grand débat. Je veux dire, mais c'est vrai. Je veux dire, il faudrait faire une analyse fouillée de la société catalane et de comment les différentes classes sociales se positionnent. Par exemple, on l'a très bien vu autour du 17, du 1er octobre, du référendum du 1er octobre 2017, c'est que dans toutes les pressions que le gouvernement central de Madrid faisait sur la Catalogne pour empêcher le référendum, il y a eu les pressions économiques. Et notamment, il y a eu 2000 sièges sociaux de sociétés qui ont déménagé de Catalogne. Après, c'était bidon. Je veux dire, parce que ça conditionnait pas, il n'y avait pas de conséquences économiques. C'est uniquement un bout de papier, le siège social, on le fout à Valence, à Madrid ou ailleurs, à Séville, etc. Mais 2000. Et en fait, on s'est aperçu à ce moment-là que comme vous l'avez dit, la Catalogne, il y a une bourgeoisie très importante, très riche, un pays riche, hein, mais que toute la bourgeoisie la plus riche en Catalogne a fait le choix de Madrid. Notamment, je veux dire, et ça a été, et notamment ce qui a entraîné des scissions dans le parti centre-droit. Parce que Puigdemont, qui est dans un parti centre-droit, un peu mou, etc., je veux dire, après les référendums, a scissionné. Tous les plus libéraux ont scissionné, et Puigdemont a refait un parti un peu à son image, c'est-à-dire indépendantiste, centriste, disons, voilà, mais moins marqué par le libéralisme de droite. Enfin bon, je veux dire. Mais, et donc une partie de la bourgeoisie après il reste certainement dans le milieu de le mouvement indépendantiste beaucoup des petits capitalistes catalans, de la petite bourgeoisie, une partie du prolétariat aussi certainement en Catalogne n'est pas indépendantiste. Je veux dire, dans les banlieues socialistes de Barcelone, bon, je veux dire, dans certaines banlieues, les indépendantistes n'ont pas été majoritaires non plus. Je veux dire, il y a toute cette complexité-là, mais qui existe dans tous les mouvements, je le disais tout à l'heure, de libération nationale. Je veux dire, quand l'Algérie a été indépendante, tous les féodaux algériens qui avaient choisi la France sont venus en France. Je veux dire, ça représentait du monde, je veux dire. Et seul...
Oui, mais juste, du coup, c'est pas la même politique. C'est ça que je veux dire, c'est que dans la manière de le traiter, on peut pas parler d'autonomie de la Catalogne. En fait, le risque, c'est quand même de dépolitiser complètement, même des rapports de classe, cette question des coloniales, en fait, qui doit pas être séparée. Et c'est juste qu'en fait, aussi, dans la manière dont ça a été traité depuis 2017, c'était comme ça, c'était traité comme ça, comme une de manière un peu ça a été dépolitisé d'une certaine manière. Il y a un risque.
Je veux dire, oui, il y a toujours des risques. Quand on fait quelque chose, il y a toujours des risques que ça ne marche pas ou que ça marche mal, je veux dire. Mais ça n'a pas été forcément... par exemple, il y a une interview très intéressante dans le film que j'ai fait. Enfin, intéressante, pas parce que je l'ai... Parce que c'est dans le film, mais parce que c'est la personne que j'ai rencontrée qui est un militant de la Coupe de Gérone et qui explique qu'ils ont fait, avant le référendum de 2017, les CDR... les comités de défense du référendum, qui se sont transformés en comités de défense de la République. Et il explique, ils ont fait les CDR, donc un peu à l'initiative de la coupe, donc des courants révolutionnaires, anticapitalistes, etc., parce qu'ils s'apercevaient, alors que tout le monde était d'accord pour le référendum, le Parlement catalan, dirigé un peu par les bourgeois des Catalans, par les bourgeois catalans, ne pouvait pas garantir réellement l'organisation du référendum, qu'il fallait que la rue... s'en préoccupe, et ça a été l'objectif un peu des CDR pour garantir l'organisation du référendum, qui s'est transformé après en comité de défense de la République, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore signalé, le truc que j'ai trouvé dominant, aussi dominant que l'indépendance, c'est la République. Il ne faut pas oublier quand même que sur le cadavre de Franco, tous les partis se sont mis d'accord pour réinstaurer la royauté avec Juan Carlos, qui est d'ailleurs qui a fui, qui magouille, etc., qui est aux Émirats Arabes Unis, parce qu'il a détourné quelques centaines de millions d'euros. Je veux dire, bon, voilà. Bon, c'est ça, la royauté espagnole, etc. Je veux dire, et les Catalans n'en veulent pas. Je veux dire, ils veulent une république. Voilà, je veux dire, c'est... Et ça, c'est dominant. Ça, c'est quelque chose de, je veux dire, aussi important, sinon plus que l'indépendance.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On va écouter une version punk de l'Estaca.
La bici se desparlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si sé que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfermar-la mai no podrem caminar. Però fa molt de temps ja les mans se'n van escoriant i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba.
Ben corcada deu ser ja, si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà.
Segur que tomba, tomba, tomba.
I ens podrem alliberar. La bici sèdia no em diu res, malvent se l'han portat. El qui sap a quin dret i jo sota el portal. I mentre es passen els nous valent, estiro el coll per cantar. El darrer cant del sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba.
Ben corcada deu ser ja, si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà.
Segur que tomba, tomba, tomba.
I ens podrem alliberar.
Segur que tomba, tomba, tomba.
Canal Sud 92.2, il est 13h15 sur les ondes et on est en compagnie de Paul Chiesa qui nous parle du film qui sera projeté ce soir au cinéma Le Cratère, l'ANC, une assemblée citoyenne catalane. Et juste avant la pause musicale, on parlait du républicanisme dans, dans ce mouvement indépendantiste, c'est-à-dire que l'indépendantisme catalan, bon, on a parlé, et c'est, en effet c'est une question ultra complexe de, bah, du rapport de classe en fait dans cette autonomie, mais il y a un autre aspect, c'est le refus de la monarchie.
Oui, non, mais tout à fait. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui a été, je veux dire, occulté par tous les partis de gouvernement espagnol, que ce soit même les socialistes et même les communistes en Espagne. Je veux dire, parce que, Franco est mort en 75. Son dauphin, Carrero Blanco, avait été tué par le TA. Il y avait un certain vide politique. Je veux dire, bon, tout le monde ne savait pas ce qu'ils allaient faire, etc. Donc, on a mis en place un gouvernement post-franquiste un peu centriste, avec notamment d'anciens ministres de Franco, etc. Et on a réussi à élaborer une constitution en 78 avec le plus petit dénominateur commun, restauration de la monarchie, voilà, un peu d'autonomie dans les régions. Je veux dire, mais que l'essentiel, on ne bouge pas. Il n'y a pas eu, de rupture avec le franquisme, dans la justice, l'armée, la police. Il n'y a eu aucune poursuite, alors qu'il y a eu des centaines de milliers de morts. Vraiment, ça a été...
Il y a eu une politique d'amnistie pour certains prisonniers politiques catalans.
Tout le monde a été libéré, oui.
Ouais. Non, je ne dis pas ça pour contredire, mais il y a eu cette politique-là, mais ça s'est arrêté là.
Oui, tout à fait. Ça a été... Cet état de fait est resté jusqu'à maintenant, cette Espagne profonde qui s'est levée contre la Catalogne. Parce qu'il faut voir que, le coup d'état de Franco en 36, contre le gouvernement républicain légitime, issu des urnes et tout ça, le coup d'état de Franco, Franco s'est levé contre deux trucs, d'abord un gouvernement de gauche sur les conquêtes sociales, etc., et sur l'autonomie des régions, l'Espagne est une, on démantèle pas l'Espagne, ça c'est quelque chose de très important, dans la droite et l'extrême droite espagnole, et c'est à l'origine un peu de ce...
Non, vas-y.
Oui, de cette réaction très violente de l'État central contre le référendum.
Alors justement, je me demandais déjà, quelle est la période sur laquelle ce film a été réalisé ?
Entre septembre 2017 et septembre 2018.
Ok, d'accord. Pour savoir un petit peu où on en est aujourd'hui, on est 5 ans après ce référendum de 2017. On en est où en Catalogne là
C'est un peu la merde parce que il faut voir quand même le bouleversement qu'a représenté ce référendum en Catalogne. D'abord tout à l'heure je disais qu'il y a eu une mobilisation extrême de la population. Pendant des mois et des mois et des mois, c'était des grèves constantes, des manifestations constantes, des gens en prison, des inculpations, des gens en fuite. Ça a été quelque chose d'énorme. Ça a été un échec, pas une défaite, un échec. Et donc automatiquement, d'abord, les gens ils soufflent, que la pression est un peu retombée. Et quand il y a un échec comme ça, il y a toujours des dissensions qui se développent. Le camp politique indépendantiste est assez fracturé. La gauche... Parce qu'une des conséquences après du référendum, c'est que la droite a perdu en Espagne et la gauche est arrivée au pouvoir. Gouverne avec Podemos, avec la gauche antilibérale. Ils ont amnistié les prisonniers, ils ont une grâce, les prisonniers, ceux qui étaient en prison en Espagne, puisque Puigdemont, ceux qui étaient en fuite sont pas graciés, ils sont toujours en fuite, et donc susceptibles d'être arrêtés et condamnés. Mais ceux qui étaient les neuf qui étaient en dirigeants, qui étaient en Espagne, ont été graciés, quand même, il faut signaler, après 3 ans de prison. Quand même. Et 3 ans de prison, sévère. Parce qu'à des moments donnés, il y a eu des libérations conditionnelles qui ont été cassées. Ils ont été renvoyés en prison, isolés, etc. Ça a été des trucs qui ont été assez durs, puisque la plupart, ils ont été condamnés entre 9 ans et 13 ans de prison. Donc des peines qui ont été très sévères. Donc le gouvernement socialiste a fait le minimum, vraiment le minimum. Et sur tout le reste des dossiers, rien n'a avancé. Il s'était engagé à augmenter un peu l'autonomie de la Catalogne, mais rien n'a avancé, etc. Et l'attitude qu'ont les Catalans par rapport au gouvernement socialiste a entraîné une fracture entre le centre droit qui est hostile, qui campe sur des Puigdemont, qui campe sur des positions de non-compromis, c'est-à-dire référendum indépendance, et le centre-gauche, qui serait pour faire des compromis avec l'été central, et comme ils disent, d'avoir un référendum un peu à l'écossaise, c'est-à-dire négocier avec Madrid un référendum, voilà, etc. Voilà. On en est un peu là. Donc le camp indépendantiste est un peu démobilisé. Après, ce qui était normal, ce qui était prévisible et tout ça. Mais je pense qu'une page a été écrite le 1er octobre 2017, et voilà, et rien ne sera plus comme avant, je veux dire. Après, dans le film, je crois que c'est Gérard Onesta qui le disait, je veux dire, on connaît bien la Catalogne, je veux dire, il a vu. Mais en gros, quand on voit que toute la jeunesse s'est levée pour la République et que c'est les vieux qui applaudissaient les flics, ils disaient les dés sont jetés, quoi. L'indépendance, c'est pas dans 5 ans, ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans, quoi. Je veux dire, mais l'indépendance et la République.
Et on en parlait tout à l'heure, il y avait en 2017 et après, il y a eu une grosse mobilisation aussi de la diaspora catalane, notamment des Catalans qui vivent en France et qui participaient un peu à distance à ces mobilisations. Est-ce que vous en avez rencontré et du coup, qu'est-ce que ça change et comment les Catalans à l'étranger se sont mobilisés ? Est-ce que ça fait aussi partie du film ou pas ?
Oui, oui, parce qu'il y a une... À l'époque, une des responsables de l'ANC en France est interviewée dans mon film. Enfin, je veux dire, il y a un entretien avec elle. Et que ce soir, il y aura dans le débat Marie Lefebvre-Fonoliosa, qui est de l'ANC France et qui habite Toulouse, qui partit et qui suit parfaitement ce qui se passe en Catalogne, donc qui pourra faire le point sur la situation actuelle et qui milite activement, puisqu'elle a notamment... Elle organise, puisque ça continue depuis pratiquement 4 ans, il y a des veillées place du Capitole. C'était avant tous les vendredis à 19h, maintenant c'est une fois par mois. Il y en a eu près de 200 et c'est elle qui a coordonné l'organisation de ces veillées. Donc il y a une mobilisation qui a été assez importante au début. Bon, je veux dire, bien sûr qu'il faiblit maintenant parce que je veux dire, il y a d'autres choses, mais de toute façon, ce que je disais, l'idée a été plantée, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui se maintiendra, et notamment, c'est une idée qui a des échos, j'allais dire, partout en Europe, puisqu'on parle, on a parlé de l'Écosse, où bon, il y a eu 2 référendums déjà qui n'ont pas abouti, mais l'Écosse sera un jour indépendante en Grande-Bretagne. Je veux dire, en ce moment, il y a des élections en Irlande, des élections générales dans le Royaume-Uni. Et pour la première fois en Irlande du Nord, le Sinn Féin risque d'être majoritaire. Et c'est les républicains de gauche indépendantistes, enfin, qui sont pour le rattachement à l'Irlande, risquent d'être majoritaires. On a vu ce qui se passait en Corse, où le gouvernement Macron a absolument rien négocié du tout et a méprisé, a écrasé pendant 5 ans, etc., il a fallu que tout le monde se lève en Corse, dire, pour que le gouvernement prenne peur et commence à négocier. Voilà, donc c'est quelque chose qui...
Et là, on en est où pour ce qui se passe en Corse, là, actuellement ?
Pour l'instant, le gouvernement Darmarin a été envoyé en Catalogne.
Darmarin,
j'aime bien. Bon, Darmanin est envoyé en Corse en catastrophe. Avant le premier tour, il y a passé même 3 jours, pouvoir négocier. Je veux dire, il y a eu... les Corses ont refusé qu'ils repartent sans que tous les accords soient écrits, bien précisés. Et en fait, des négociations s'ouvriront à Paris, etc. Enfin, je veux dire, on verra, je veux dire. C'est... Mais en Corse, ça a été très important, puisque, de l'aveu de même des forces de police, c'est la première fois depuis des années que les forces de police ont reculé. Quoi, je veux dire, ont reculé malgré les dizaines de milliers de grenades lacrymogènes qu'ils ont envoyées. Et je pense qu'en Corse, ils ont eu du mal. ils avaient du mal réellement à... Ça a été une situation pré-insurrectionnelle, je veux dire. Et uniquement parce que le gouvernement central a refusé, mais toute négociation.
Enfin, bah, l'État français, sur cette question-là, il est particulièrement radical.
Oui, oui. Mais après, je veux dire, mais j'allais dire moins radical que l'Espagne. Parce que l'Espagne n'aurait pas reculé. Je veux dire, là, le gouvernement est plus faible. Le gouvernement français est un peu plus faible, il a reculé.
Ouais, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes outils aussi.
Tout à fait. Non, parce que le gouvernement espagnol, enfin, l'État espagnol est très très dur avec cette question. Très très dur. Je veux dire, j'ai vu il y a pas longtemps, là, au Cosmographe, l'hypothèse basque. Nouveau film de.
L'hypothèse démocratique, c'est un film qui passe en ce moment.
Voilà. De Thomas Lacoste, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui est excellent, je veux dire, sur l'histoire donc de la lutte de libération nationale au Pays Basque, de l'ETA, et après tout le processus de pacification, l'ETA s'est dissous, a abandonné la lutte armée, s'est dissous, a rendu les armes et tout ça, etc. etc. C'est un film absolument passionnant, mais on voit que ça, l'État espagnol n'a fait aucune concession, je veux dire, les prisonniers basques sont toujours en prison, il n'y a pas eu de regroupement au Pays Basque, je veux dire, et tout à l'heure je signalais que peut-être avec la Catalogne, l'État espagnol a essayé de créer un État, un ennemi intérieur. Ça, c'est une hypothèse que quelqu'un dans le film annonce. C'est qu'en fait, que l'ETA arrête la lutte armée, ça a emmerdé énormément l'État espagnol. Parce qu'ils avaient envie qu'il y ait l'ETA pour justifier, comme on le voit souvent en France...
Ils sont retrouvés orphelins de cet ennemi intérieur.
Exactement, je veux dire, pour justifier toutes les mesures de répression, etc. Je veux dire, c'est... Et donc, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de pacification au Pays Basque. Quand il y a eu pacification, ils ont essayé, à mon avis, de souffler sur les braises catalanes pour voir si ça n'allait pas les aider à se maintenir. Mais je veux dire, ils ont été très loin, je veux dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, je ne sais plus en quelle année, en 2008, je crois, quand il y a eu les attentats à Atocha dans la gare... les attentats islamistes dans la gare à Madrid, il y a eu...
En 2005, je crois.
2005 ou 2008, je sais pas. Oui, peut-être 2005. Où il y a eu une centaine de morts. Et ça, c'est juste avant des élections législatives en Espagne. Le premier ministre de l'époque, Aznar, avait imputé les attentats, le TA. Je veux dire, uniquement dans une perspective électorale.
2004.
Uniquement dans une perspective électorale, je veux dire, ils avaient besoin de ça, je veux dire. Et je pense qu'ils ont tenté le coup, ils ont tenté le coup en Catalogne, je veux dire. Et donc,
là pour le coup, c'est un parallèle qu'on peut rapprocher de l'État français aussi.
Ah mais tout à fait, non mais tout à fait, je veux dire.
Mais en effet, il n'y a pas eu les mêmes mouvements. Même on peut parler du Pays Basque, il n'y a pas eu la même organisation d'un côté et de l'autre de la frontière. Il n'y a pas eu la même histoire. Il n'y a pas eu le même Franco aussi. C'était pas bon. Après, c'est une histoire que je maîtrise pas trop, donc là,
non,
je vais enfoncer des portes ouvertes.
Non, mais tout à fait. Non, je veux dire, mais c'est, je veux dire, c'est une hypothèse, enfin, je veux dire, c'est une question qui peut nous faire réfléchir sur la façon dont le terrorisme islamiste est manipulé et instrumentalisé par un certain nombre de pays au niveau international. Je veux dire.
Notre émission va toucher à sa fin. Je rappelle, le rendez-vous, c'est donc 20h au cinéma Le Cratère. Pour ce film, l'ANC, une assemblée citoyenne catalane, ce sera suivi d'un débat avec notamment la compositrice Solange Barrachina,
oui.
Et Marie Lefebvre Fonolosa de l'ANC France. Est-ce que vous voulez présenter justement ces participantes?
Ben, je veux dire, la compositrice, parce qu'elle habite Toulouse, elle habite pas loin d'ici même, je veux dire, et qu'elle a fait une musique excellente... pour ce film, et je pense que c'est important aussi, un film, c'est un travail collectif, et c'est important aussi qu'apparaissent toutes les personnes qui, à différents niveaux, ont contribué à la réalisation et à la fabrication d'un film. Et donc la musique est importante, et Solange Barrachina est quelqu'un de grand talent, et Marie Lefebvre Fonolosa, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est quelqu'un de l'ANC France, et c'est une personne qui a fait un travail très, très important à Toulouse en coordonnant les veillées Place du Capitole, où tous les vendredis, maintenant une fois par mois, des gens se rassemblaient pour manifester leur solidarité avec les emprisonnés en Catalogne.
Merci beaucoup en tout cas pour cette émission. On vous retrouve ce soir au cinéma Le Cratère.
Merci.
Merci.
Si t'equivoques et diuen pobre noi, surts del camí correcte i et diuen paranoic. És absurd, la gent es compara, has retingut cada cara com una polaroid. Ei, saps molt bé que són la plaga, els que baixen del vaixell si naufraga. Seguim la saga dels que disparaven els de verd per deixar-los de vermell, pel cantó salvatge de la vaga, del que no cau la moneda. Una altra gerra d'aigua freda, plou sobre mullat. La decisió incorrecta, per defecte, apunta els meus consells i crema la llibreta. Dieu que no podem, doncs fem-ho. Si la vida són dos dies, pregunta-li un bogero. Tallen les ales o et desplomen, l'encert és el diploma, estalvia prolegomen. Tu preguntes, tinc indicis, no sé com els aguantes. El sol està tapat per edificis de milers de plantes. Els terrats planten antenes, pillem càncer de cervell mentre ens expliquem les penes. Aquí els carrers fan trenes, són les venes del consum. El barri és color merda si mires a contrallum. Toquen el claxon, pugen els fums. Jo porto MF Doom als cascos i em pujo el volum. Dius que ens glitxes? Doncs som-hi, no? Tens totes les fitxes, perquè et fundim el domino. La racionalitat i el cor estan com gat i gos. Esnifes clenxes d'un color blanquinós.
Vaig quedar-me a la sortida d'escuria. No hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir mai ja no fa falta. I clar que sí. Vaig quedar-me a la sortida d'escuria. Deja la gent es compara. No has aconseguit que m'espavili i a base de xalves.
Diuen que estàs perdent el temps. Noi. L'exemple cristal·lí perquè comprenguis que no saben viure en pau i perquè t'inundi la calma. Sents que estàs en un reialme amb una barca sense rems, oi? Mira, no vols ser un exemple. Sempre has pensat que era una pretensió ridícula.
Per l'inept d'un temple. I
hi ha qui somia que ejacula en una brètula, que somia sense pataki, però tu no t'omple ni la faràndula ni la pija de l'escola, que s'anula i recula a cada paraula i dius, mira, no hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir-me ja no em fa falta. I clar que sí, garbasses amb salva, resa't per torba, en la vista, un bit gran reserva.
La tele sempre estorba.
Quan parla el camí es corba, escarba el vapor del dia i amb un llibre jau a l'herba. Projectes llistes al llapis sobre l'orella, literatura, música i política entre cella i cella. Saps que mentre hi hagi una explotada aquest món, hauràs de mostrar com tremola el gos a cada ovella. On, entre amics i bona gent, algun dirà que uà, que sona bé, t'abraçarà, dirà que li havien dit que eres bo, però que ni somiar-ho que et sortissis tant. Callaràs quan te la fot un Flanagan, comença a falegar, man.
Vaig quedar-me a la sortida d'escuria.
No hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir mai ja no fa falta. I clar que sí.
Vaig quedar-me a la sortida d'escuria.
La gent es compara.
No has aconseguit que m'espavili i a base de xapes.
Si vous avez aimé cette discussion, qu'on va conclure ce magazine par un conseil lecture. C'est un livre qui a été publié en 2016 qui s'appelle « Les yeux fardés » qui a été écrit par Louis Liac. C'est le compositeur de l'Estaca. C'est Louis Liac, il a été député en Catalogne pendant un moment. Là, il est vieux maintenant. Et il a écrit ce roman sur quatre amis inséparables, Germinal, David, Johanna et Mireia, qui sont nés dans les années 20 à Barceloneta. C'est un quartier populaire à Barcelone. Et qui, justement, traversent les rives de l'enfance dans ce quartier, aux ruelles Bigarret, au centre maritime et à la culture ouvrière militante. Et après l'âge tendre et les premiers, l'âge tendre des premiers émois, les personnalités s'affirment et les destinées s'esquissent. Pour les deux filles, du moins, les balises de l'avenir se font plus fluctuantes pour les garçons quand ils découvrent la passion qui les unit. Si la proclamation de la République leur ouvre les voies de l'espérance, très vite, la guerre civile rebat les cartes et conduit les amis au chaos. Hôte vibrante à Barcelone, l'irréductible, et à son peuple, enivré de rêves libertaires, ce roman trace avec une grande finesse l'expérience guerrière de ces héros sans grade, nimbés de la nostalgie douce amère, des illusions perdues. Alors, vous vous doutez bien que je viens de lire un texte, j'improvise pas comme ça à la radio, ça se saurait. C'est un livre que j'ai énormément aimé et je vous le conseille, là, les beaux jours arrivent, votre lecture de l'été, Les yeux fardés de Louis Lac, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui raconte notamment, puisqu'il semble que voilà, les quatre personnages là, du roman naissent en 1916, ils ont 20 ans, quelque chose comme ça, au moment de la guerre civile et de la prise du pouvoir par les fascistes, par Franco. Et c'est un très très beau livre qui mêle vraiment en fait cette expérience voilà adolescente, cet apprentissage de l'amour, de la découverte de la sexualité avec le contexte politique et la manière en fait dont ces adolescents rentrent dans la lutte, qu'ils aient ou pas de la famille, dans des syndicats, dans la lutte. Mais vraiment, du coup, je vais pas vous raconter l'histoire. Mais c'est un livre. Putain, vraiment, j'ai envie de dire que c'est un film. Non, c'est pas un film. C'est un livre de ouf. Et ça a été publié chez Babel il y a quelques années. Vous le trouvez à Terra Nova, vous le trouvez partout. Moi, je l'ai offert à tous mes potes. Donc vraiment, je vous le conseille. Et pour poursuivre ce magazine, on va s'écouter un petit Rosalía quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Et juste après, on écoutera le troisième épisode de la série GAFAM Fatal sur les nouvelles technologies et qui parle de surveillance. Voilà, c'est la suite du magazine d'hier, si vous étiez à l'écoute. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi. Et on se retrouvera demain pour le magazine de Marie-Madeleine. Allez, salut, ciao!